Mettons-nous à l'aise, empilons quelques matelas.
Un soir, il y a un roi et une reine qui sont avec leur fils qui sont dans un château. Ils entendent des bruits dehors. Ils voient une fille qui a les habits tout déchirés en guenilles et elle dit qu'elle est une princesse. Le roi, il ne la croit pas et le prince, il tombe amoureux d'elle. Donc, sa mère, elle dit « Je vais faire quelque chose pour démontrer si c'est une princesse ou pas. » Elle met un petit pois sous le matelas de la princesse. Et ben, quand elle dort, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à dormir parce qu'il y a une sorte de petit truc qui l'empêche de dormir dans son dos. Et donc elle demande à rajouter un matelas. Et le lendemain matin, elle dit qu'elle n'a pas arrivé à dormir de toute la nuit. Et la reine, elle dit au prince que c'est une princesse parce que les princesses, elles sont délicates, elles arrivent à tout sentir, tout ce qui est autour d'elles et donc que c'est vraiment une vraie princesse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aimez-vous écosser des petits pois? Moi, j'adore, parce que je trouve ce mot très joli déjà, écosser. Ça m'évoque des châteaux, des kilts et de beaux paysages. Et puis c'est amusant, ces petites billes vertes planquées dans leur cosse qu'il faut déloger une par une. Planquer, c'est tout le sujet. Le petit pois dont nous parlons aujourd'hui est sacrément bien caché, sous une pile de matelas. Quelle idée bizarre quand même. La princesse au petit pois est un conte assez déroutant, mais c'est pour ça qu'il est formidable. Il permet de se poser plein de questions, rigolotes ou plus sérieuses, de formuler des hypothèses, de jouer à changer la fin, le début, le milieu. Amusons-nous avec cette histoire écrite par le Danois Hans Christian Andersen au 19e siècle. Je ne cesse de le répéter dans cette émission, le conte est un support merveilleux pour laisser galoper son imagination. C'est une fenêtre qui s'ouvre, et avec ce poids, pourtant tout petit, la fenêtre est immense. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Émission réalisée par Christophe Humbert. Alix Barois est à la technique, préparation Anne-Sophie Dazard. Je vous présente mes deux invités qui se sont tous les deux appropriés ce conte d'Andersen, la princesse au petit pois. Bonjour Flore Vesco.
Bonjour.
On n'est pas obligé de toujours présenter les gens en commençant par leur métier. Flore Vesco, vous aimez les mots de plus de 3 syllabes et tout ce qui a des bulles. C'est ce qu'on lit sur la 4e de couverture de votre dernier roman. J'adore. Vous écrivez donc des livres pour ados. Le précédent qui s'intitulait « L'étrange malaventure de Mirella » a reçu le prix Vendredi, qu'on présente souvent comme le Goncourt de la littérature pour ados. Et votre nouveau roman s'appelle « D'or et d'oreiller ». C'est une adaptation très libre de « La princesse au petit pois ». Un roman qui aborde la sensualité avec beaucoup de subtilité, la découverte de son corps, les premiers émois. Parce que c'est peut-être la sexualité qui se cache derrière cette pile de matelas. On va y revenir évidemment. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance liés à ce conte d'Andersen, Flore Vesco?
Alors non, pas exactement en fait. J'y ai vraiment repensé à l'âge adulte et c'est justement cette lecture adulte du lit comme objet central de la quête d'amour, donc forcément chargé de sous-entendus qui m'a plu. Je suis sûrement tombée dessus étant enfant, mais à vrai dire, je pense que je l'ai un peu évacué comme étant bizarre et assez dépourvu de sens.
Le fait de ne pas s'en souvenir enfant, ça change le rapport au conte, j'imagine.
Sans doute. C'est vrai que, pour le coup, mon précédent roman, qui était une réécriture du Joueur de flûte d'Hamelin, celui-là m'avait assez terrifiée étant petite. Et donc, il y avait vraiment les deux lectures.
On se rappelle tous, hein, des enfants qui plongent un par un.
Là, le noyade, la noyade des enfants. Mais là, celui-ci, non, vraiment, c'est... En cherchant un nouveau conte, en fait, justement, et en me rappelant de celui-ci, mais d'où, je ne sais pas, que je me suis dit, ah, le petit pois.
Il y a un truc à faire avec ces matelas. Édouard Signolet est aussi avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous aimez les petits pois?
Oui, j'aime bien les petits pois, oui.
Vous
oui,
les
oui.
cuisinez comment?
Alors, en salade, beaucoup.
On cuit, mais, oui. mais pas trop, quoi.
Mais
un
pas
peu trop.
Croquant. C'est
très
ça.
Bien. Vous êtes metteur en scène de théâtre, de contes musicaux et d'opéra, notamment pour la Philharmonie de Paris, artiste associé au CND de Nice, le Centre National Dramatique. Et vous avez mis en scène, il y a quelques années, une adaptation de La Princesse au petit pois d'Andersen à la Comédie Française. Combien y avait-il de matelas sur scène?
Il y en avait effectivement 20.
20,
ouais, ouais.
20 matelas, ah, ouais. 20 couettes, donc comme dans le conte. Hein.
Alors il n'y avait que 20 matelas, en fait, qui était un procédé scénique qui était super, parce qu'en fait, on avait, la Comédie Française avait des tapissiers, donc on a fait 20 matelas qu'on avait en fait collés sur tous les murs, en fait. Donc on avait un bord qui était complètement noir, donc on savait pas du tout en fait que tout le théâtre, en fait tous les murs étaient des matelas. Et à la fin, les comédiens arrachaient et on voyait les matelas voler dans tous les sens.
C'est rigolo de travailler avec des matelas pour un dramaturge.
Oui, c'est assez drôle.
C'est une façon de fabriquer une cabane aussi, peut-être.
Des matelas, c'est un peu mou quand même, pour pouvoir faire des murs un peu solides.
Votre adaptation de La Princesse aux petits pois, Édouard Signolet, est disponible en livre aux éditions de L'Arche. Vous avez aussi adapté Pinocchio, le conte de Carlo Collodi, dans un très beau livre CD chez Didier Jeunesse. Alors, on a entendu en préambule de cette émission cette histoire très bien résumée par un enfant, La Princesse aux petits pois. Je vous propose qu'on écoute la version d'Andersen, la version originale, La Princesse aux petits pois, racontée par Jean-Pierre Marielle.
Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en rencontrer une, mais chaque fois, il trouvait toujours quelque chose à redire. Les princesses ne manquaient pas, bien sûr, mais s'agissait-il de vraies princesses? Difficile à dire. Jamais elle ne lui semblait parfaite. Après de longs mois de recherche, il rentra chez lui tout triste, certain qu'il ne trouverait pas son bonheur. Un soir, pourtant, alors qu'il faisait un temps abominable, avec éclairs et tonnerres, cascades de pluie, que c'en était effrayant, quelqu'un frappa à la porte de la ville. Le vieux roi, lui-même, alla ouvrir. Une princesse se trouvait là, dehors, immobile. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, elle lui entrait dans le nez, dans les souliers, mais la jeune femme prétendait être une vraie princesse. « Bien, nous allons voir, » pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore 20 couettes en plumes de canard. Et c'est là que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on demanda à la jeune femme comment elle avait dormi. Affreusement mal, répondit-elle, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couché sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus sur tout le corps. Une horreur. Alors, tous reconnurent qu'il s'agissait vraiment d'une princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 couettes en plumes de canard, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait appartenir qu'à une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, certain maintenant d'avoir sa princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des objets d'art, où on peut encore le voir, si personne ne l'a emporté. Ceci est une vraie histoire.
Jean-Pierre Marielle, extrait d'un disque édité par Frémo et Associés, Le vilain petit canard et autres contes d'Andersen. Alors, on a beau connaître une histoire, il s'en dégage toujours quelque chose de neuf quand on la réécoute. Qu'avez-vous entendu cette fois-ci, Édouard Signolet?
Moi, à chaque fois, c'est toujours un peu la même chose que je rentends, c'est l'histoire de la princesse. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des matelas, du petit pois, du prince qui cherche une vraie princesse, mais tout le monde se fiche complètement de la princesse, en fait. Et c'est-à-dire qu'elle arrive trempée devant la porte toute seule et personne se demande jamais ce qui lui est arrivé. Personne s'intéresse à son histoire. Et à chaque fois, je me dis, ce serait bien d'en faire une histoire, une vraie.
Flore Vesco, vous l'avez fait.
J'ai essayé, en tout cas.
Et vous, qu'est-ce que vous entendez quand Jean-Pierre Marielle re-raconte cette histoire?
Il m'a piqué ma réponse parce que je me suis fait la même réflexion. Ce côté iceberg du conte où on nous raconte une toute petite histoire très courte, très simple, mais en fait, il y a toute une partie immergée qu'on n'a pas du tout abordée et c'est celle-là qui est intéressante. Et c'est vrai qu'en le transposant dans le roman, l'idée c'était ça aussi, c'était d'aller essayer de chercher ce qui n'a pas été dit. Et entre autres, oui, qu'est-ce qu'elle faisait toute seule sous la pluie? Et pourquoi personne ne s'inquiète de ça?
D'où elle vient? Ouais. Quelle est son histoire?
Alors, votre roman D'or et d'oreiller, Flore Vesco, qui s'inspire donc de ce conte, est une histoire de sorcellerie. Pas seulement, hein, mais aussi une histoire de sorcellerie. Le château est hanté, mais il y a finalement aussi dans le conte original un peu de magie. Ce petit pois quand même qui laisse des bleus à travers 20 matins. Là, c'est de la sorcellerie.
C'était en tout cas une exagération comme la pantoufle de verre ou voilà, une impossibilité. C'est très beau, c'est le merveilleux. Et c'est vrai que le merveilleux du conte, quand on transpose ensuite dans le format plus long du roman, c'est pas mal de le transposer par effectivement le fantastique parce que ça laisse cette place aux choses qui ne sont pas vraies, mais peut-être que si quand même.
Tout aussi magique, sans doute. Moi, j'ai pensé seulement là, en l'écoutant, que c'est lourd un matelas, quand même. Empiler 20 matelas, pour la reine, ça, c'est costaud, quand même.
C'est vrai, j'y avais pas pensé non plus.
Édouard Signolet, la place du merveilleux dans le conte, c'est quelque chose qui vous touche?
Ah bah complètement, enfin, c'est, en plus c'est un espace d'imaginaire, un espace aussi où on peut résoudre les angoisses, c'est-à-dire c'est un endroit où tout ce qu'on peut angoisser sur des choses concrètes peuvent se résoudre aussi sur le fantasme, sur l'imaginaire, et on peut y transposer plein de choses super. Donc oui, l'imaginaire c'est... enfin voilà, le merveilleux c'est super.
Quelles angoisses peut-on transposer ici?
Oh ben tout sur le petit pois. Oh ben je pense qu'il y a le passage à l'âge adulte.
C'est pas beaucoup un petit pois pour transposer toutes ces angoisses.
Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisses dans le petit pois. Il y en a pas mal. Non, il y a le passage à l'âge adulte. Je pense aussi pas mal. Il y a l'histoire du mariage aussi, la quête de la vérité.
Et cette relation entre l'histoire d'amour du fils et les parents entremetteurs derrière, il y a beaucoup de choses là-dessus aussi.
Ouais. Après, est-ce qu'on peut parler d'histoire d'amour? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt de filiation ou de vouloir sauver une lignée royale à tout prix, même au prix d'un petit pois?
Alors, on va entendre dans un instant ce que pensent les enfants de cette histoire étonnante. Voici d'abord, quelle joie, Clara Luciani sur France Inter.
Barbatrix, tous les dimanches à 17h avec Dorothée Barba.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos. Je me refais le film, le début était beau. Puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier.
cheveux perdus sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Nous auscultons cette semaine un conte d'Andersen, La princesse au petit pois, avec un metteur en scène de théâtre et une écrivaine, Édouard Signolet et Fleur Vesco. Écoutons à présent ce qu'en pensent les enfants que notre reporter Juliette Proutot a rencontrés. Vous la comprenez, cette histoire ?
Bah, franchement, qui pourrait sentir un petit pois sous 20 matelas et 20 étriers en plume ? C'est idiot. Il serait déjà écrasé.
Sinon, c'était un petit pois magique.
Bah oui, un petit pois, ça peut pas traverser des matelas.
Bah, c'est parce que la mère, peut-être qu'elle avait pas conscience. Elle ressemblait à une pauvre.
En fait, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'elle avait beaucoup marché, en fait.
Et en plus, sa robe, elle se voit un petit peu, quand même.
C'est pas tous les jours qu'on cache un petit pois sous un matelas pour savoir si c'est une princesse.
Moi, je voudrais passer le test, mais après, moi, si j'avais un arc sur moi, je tirerais à l'arc.
Puisque si j'étais la princesse, j'ai eu mal au dos la nuit, alors je vais lui tirer dans le dos. Elle va savoir ce que c'est d'avoir vraiment mal au dos.
Et la reine voulait qu'elle ait une princesse. Je sais pas pourquoi.
Bah, je crois que la morale, c'est que si t'es moche et tout, bah, ça veut pas dire que t'es pas gentil et tout.
Et là voilà l'implacable vérité, on ne comprend rien à cette histoire. Êtes-vous d'accord avec ces enfants, Édouard Signolet ?
Oh bah surtout qu'en fait ils sont tout à fait conscients du fait que c'est quand même une blague cette histoire. C'est-à-dire qu'à un moment ils se disent non, c'est pas possible cette histoire de petits pois. Donc
là voilà votre analyse. Mais c'est une vaste blague.
Ah bah pour moi c'est une grande blague en fait, c'est un gros canular en fait ce conte.
Donc, expliquez-nous ça.
Bah, si vous voulez, je pense qu'il a vraiment il essayait de se moquer en fait des histoires de rois, de reines, de princes qui cherchent à tout prix à avoir une vraie lignée de vrais gens qui sont du monde royal et qu'il faut trouver une vraie personne et que le fait de trouver une vraie princesse ne tient qu'au fait qu'elle le du petit pois en fait. Donc la vraie princesse se détermine par un petit légume. Mmh. Voilà, donc on arrive à sauver un royaume princier royal grâce à un petit pois. Donc effectivement pour moi c'est une ironie par rapport au monde de la monarchie.
Donc Andersen, auteur danois du 19e siècle, se moque avec ce texte de la bourgeoisie, de l'aristocratie et de l'entre-soi finalement, Édouard Signolet.
Tout à fait. Mmh. Et surtout de la peur de l'ailleurs aussi surtout.
C'est-à-dire qu'il faut la peur de l'autre.
La peur de l'autre et surtout de la peur de quelqu'un qui ne serait pas de leur classe. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire ce petit pois en fait est vraiment même les matelas, ça peut être vu comme une pyramide sacrificielle où on la met sur la pyramide et on peut passer un test pour bien être sûr que quand même elle appartient à notre monde.
Tant qu'à être ridicule, le roi, la reine et le prince le sont franchement dans votre adaptation en pièce de théâtre, Édouard Signolet. Ce sont carrément des clowns, disons-le.
Bon, on va dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, en fait, avec ce qu'ils ont. Oui, c'est des clowns. En fait, j'ai vraiment voulu accentuer sur ce côté fin de monarchie, critique de la royauté, pour dire que ça avait plus tellement de sens. Et surtout qu'à force de vouloir chercher le vrai, est-ce qu'ils se trompent pas, en fait ? Parce que c'est un conte qui est très court, et il répète plusieurs fois le mot vrai, véritable. Et du coup, on se met à douter de tout, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi-même, je me suis douté de leur vraie royauté à eux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre le prisme du clown pour traiter ça.
Ce sont d'ailleurs les derniers mots du conte, Fleur Vesco. Ceci est une histoire vraie.
Oui, ça, c'est l'insistance du conte à vraiment essayer de nous convaincre que ce petit pois, c'est possible. Et je trouve ça rigolo comme les enfants qu'on a entendus rejettent ça, alors qu'un loup qui parle ou une pantoufle que personne ne peut enfiler d'autres qu'une certaine jeune fille, ça leur pose moins un problème. Du coup, je pense que ce qui dérange un enfant, et c'est très bien, c'est cette idée que de l'hypersensibilité, quoi. Qu'est-ce qu'on attendrait d'une jeune femme qu'elle aille sentir quelque chose de la magie ou une sorte de merveilleux plus extravagant et plus surnaturel est acceptable.
Ce lien que vous faites avec la pantoufle de verre effectivement est intéressant parce que la princesse au petit pois, j'ai l'impression en tout cas que c'est un conte en particulier qu'on ne comprend pas tellement, qu'on trouve absurde aujourd'hui, alors que tous les autres passent beaucoup plus facilement.
Oui, c'est ça, c'est un test pour trouver une épouse, donc c'est vrai qu'on en a plein, on a la pantoufle, on a l'anneau, et c'est vrai que c'est tout aussi absurde d'avoir un anneau qui ne pourrait aller qu'à un seul doigt.
Quant à la chaussure, n'en parlons pas.
La chaussure, encore pire. Mais on l'accepte, on accepte cette idée que telle, parce qu'il y a une appartenance, je porte tel ou tel accessoire et donc il ne peut aller qu'à moi, alors que sentir le petit pois à travers les matelas, c'est vrai que là on tombe dans quelque chose d'extrêmement absurde, et puis surtout on le tire vers... ça veut dire qu'elle est une bonne à marier, une femme idéale. Là où avant, en cherchant celle qui pouvait enfiler le soulier ou l'anneau, il recherchait quelqu'un qu'il avait déjà vu avant. Là, il cherche le marché de la bonne meuf, comme dit Virginie Despentes, et il faut pour ça qu'elle sente un petit poids.
Rappelons qu'Andersen a eu une enfance très 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 modeste, hein, il a grandi dans un milieu difficile. Il dénonce un système de valeurs absurde. Là aussi, vous avez cette lecture, Flore Vesco ?
J'ai cette lecture-là aussi, clairement, et je pense que je la ressors dans le roman à travers justement le bousculement des classes sociales dont on parlait aussi tout à l'heure. Dans mon roman, il y a un début qui rappelle Jane Austen et la raison pour laquelle je me suis aussi coulée dans cet autre moule qui est très différent de celui du conte, c'est parce que chez Jane Austen, les relations entre hommes et femmes, elles sont très codifiées, et en particulier sur les classes sociales, il faut avoir vraiment telle rente pour pouvoir oser adresser la parole à telle personne. Et c'est vrai que c'était un sujet intéressant à reprendre et à mettre en relation avec cette histoire de classe sociale dans Le Petit Pois.
Votre roman, en effet, se passe en Angleterre et le prince est un lord. On l'appelle Milord et ça change tout. Il s'agit donc d'un test, hein, le test du Petit Pois pour reconnaître une vraie princesse. Comment reconnaît-on une vraie princesse ? Vous pensez bien qu'on a soumis cette question difficile à des enfants ?
Bah, y a pas vraiment de critères pour être une princesse. Bien élevée, après, je sais pas.
Et savoir diriger un peuple aussi. Et avoir des bons projets.
Quoi, parce que tu sens le petit pois, tu serais la bonne princesse. Moi, je dirais, elle va tout le temps se plaindre. Mais vous, comment est-ce qu'elle est intelligente, tout ça, parce que ça se voit, elle est débile. Et elle dit, je l'ai senti. Enfin, c'est bizarre.
Surtout que les histoires plus récentes, il y a toujours un prince qui vient sauver la princesse, alors que là, pas du tout. C'est juste un test pour savoir si elle est apte à devenir reine.
Bah, si elle sait gérer un royaume, si elle est, pas envoûtante, mais de façon à ce que le peuple l'aime. Parce que si, c'est comme si un roi, et bah, personne ne l'aime, ça va pas être un bon roi.
Moi, je pense que faudrait une robe qui soit pas déchirée et bien coiffée.
Moi, ce que j'aime bien comme princesse, c'est
Mulan. Parce qu'elles sont rebelles,
c'est un peu des héroïnes, quoi.
Par exemple, Rebelle, elle est dans les bois, elle veut faire du tir à l'arc.
Bah oui, parce que c'est pas très drôle d'être une princesse si on peut pas grimper aux arbres à cause de nos robes.
Bah en fait, quand j'étais petite, j'avais voulu être une princesse. Mais maintenant, je me rends compte que quand on est une princesse, on peut pas faire de vélo, pas monter aux arbres. Faire de la trottinette.
C'est bien d'être une princesse, mais qui a le droit de porter des jeans parce que sinon c'est pas pratique.
Bah pour les princesses, c'est bien déjà de lire des livres, et moi j'adore lire des livres.
Non, au bout d'un moment, ça nous ennuie.
On peut pas faire de vélo par exemple. On peut pas manger de glace sinon on va salir sa robe.
Non, mais à l'époque ça n'existait pas les glaces.
Oui,
on se lasse jamais de l'emploi du « à l'époque » par les enfants.
Ça n'existait pas, les glaces.
Bon, résultat, on n'en sait pas tellement plus sur ce qu'est une vraie princesse, Édouard Seignolet. Mais apparemment, ça ne fait pas tellement rêver toutes les petites filles d'aujourd'hui.
Et oui, en plus, moi, le personnage que j'aime le plus dans l'adaptation, que j'ai vraiment décroché du conte, c'est la jeune fille, en fait. Parce que le prince donc, rencontre une jeune fille, et donc il en tombe immédiatement amoureux. Mais il se rend compte que c'est pas une princesse. Et donc là, elle lui dit, mais non, moi, en fait, ton monde, il m'intéresse pas. En fait, j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'être une princesse. J'ai envie de faire ce que je veux. Et c'est justement ce que dit la petite fille. En fait, quand je me suis aperçu qu'on pouvait pas faire de vélo avec une robe, ça allait pas être possible. Et c'est ce qu'elle dit aussi. Et je trouvais intéressant d'avoir une figure plus libre, en fait, dans cette adaptation. D'avoir une vraie figure de jeune fille.
La princesse, effectivement, est plus libre. Et le prince, à mon sens, est un peu plus poète que dans la version originale. Il se réveille un matin en réalisant, Édouard Seignolet, qu'il est à l'envers d'heureux. Ouais. Ça, c'est magique. Le prince, il le dit comme ça. Ce matin, je me réveille et je n'arrive plus à ressentir ce que reine appelle le bonheur. Je suis comme à l'envers de ce que roi et reine décrivent tous les jours. J'ai l'impression d'être à l'envers d'heureux.
Bah en fait, il grandit et il voit que le monde autour de lui est quand même très peu suffisant, très clos. Et surtout qu'il y a une vraie insatisfaction. Il y a une vraie insatisfaction émotionnelle et aussi une vraie insatisfaction sexuelle. Quelque part, il va aussi, il grandit, il devient adolescent. Donc il y a aussi cette chose-là qui arrive. Et il se réveille un matin sur deux choses. Un, je me sens seul, ce monde ne me suffit plus. Et deux, je crois que je vais avoir une sexualité. Papa-maman.
Papa-maman, il est grand temps de vous l'annoncer.
Il est grand temps de vous l'annoncer. Et les parents font « Oh, et là, ça arrive, ça y est, c'est maintenant ».
C'est ça aussi que raconte cette histoire. C'est l'angoisse des parents face à un enfant qui grandit.
Complètement. Et surtout, comment on va réussir à faire en sorte de contourner le sujet et de faire en sorte de le marier sans trop expliquer les choses. Parce que, par exemple, ils lui disent qu'ils veulent une vraie princesse, qu'il faut une vraie princesse, mais personne ne lui explique que c'est qu'une vraie princesse. Donc c'est un peu logique aussi, si on ne donne pas les règles du jeu, qu'il n'arrive pas à les suivre. Donc,
Le tabou de la sexualité dans la famille, c'est ça qui est caché entre les matelas, Fleur Vesco ?
C'est ça que moi j'y ai caché et que je voyais en tout cas dans le conte à travers ce lit, cette aussi hyperbole de l'hypersensibilité féminine qui forcément appelle une certaine lecture. Et ce qui est intéressant, si on voit ce conte et les remarques des enfants, c'est que le mot princesse, il veut dire femme à marier.
Il a été vidé de son sens.
C'est ça. Il n'est pas du tout
royal.
Question de d'un royaume ou quoi que ce soit, mais par contre, il est question de trouver une femme qui serait l'idéal à épouser. Et donc, forcément, on va tomber vers quelles sont ses qualités en tant que femme et au lit.
Alors, il y a un moment dans votre roman, D'or et d'oreiller, où le personnage de Sadima s'agace, Flore Vesco. Sadima, elle est femme de chambre et c'est elle qui va vivre une histoire d'amour avec le lord. Tout le monde sait bien qu'il suffit d'une robe pour transformer une souillon en princesse, dit-elle. Et ça l'énerve parce qu'elle répond au prince, puisque c'est si facile, et ben barbouillez-vous le visage et venez trinquer à la taverne avec les palefreniers. On verra bien si vous arrivez à vous fondre dans le décor. Évidemment, c'est pas seulement une histoire d'apparence.
Non, pas du tout. Et dans cette scène où elle enfile la robe, donc on lui a donné une belle robe et elle se regarde dans le miroir en espérant un miracle parce qu'elle est nerveuse en fait à l'idée d'aller à ce dîner avec d'autres personnes d'un rang bien plus élevé que le sien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que constatant que oui, la robe lui va mais ne produit pas le moindre miracle, elle est obligée de puiser dans les ressources de son courage. Et donc c'est pas la robe en fait, c'est vraiment un état d'esprit.
Donc c'est une princesse qui fait du vélo.
Alors c'est rigolo cette histoire du vélo parce qu'il y a une géniale c'est quelques planches d'une BD de Goussens où c'est aussi une retranscription de la princesse au petit pois et elle arrive trempée mais elle vient de faire du vélo. Ça me parle beaucoup parce qu'on n'est vraiment pas glamour à vélo. Donc
Mais ceci dit, cette obsession des enfants pour le vélo, ça vient sans doute de cette idée qu'il y a des vélos pour hommes et des vélos pour femmes et que le vélo pour femmes, on l'explique aux enfants, ça vient de cette histoire qu'il fallait avec une robe pouvoir l'enfourcher.
C'est ça, c'est une vraie princesse ne fait pas du vélo. Et puis le vélo c'est la liberté, on va loin.
Ouais, c'est ça, c'est exactement
on
ce que
va
je veux dire. En fait, le vélo c'est vraiment le fait d'être libre en fait. C'est un truc qui... On a vraiment l'impression que le monde nous appartient, un vélo.
Un vélo, c'est pour s'en aller, et une
c'est
princesse
ça.
Ne s'en va pas.
Exactement.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
I was waiting for the bus one day. Watched a fight between a Aussie couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a breath, you would hear me when I talk to you. Threw her necklace in his face, eyes so bright with disappointment. I saw something inside her. He started screaming. As she ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street, watched his world dissolve in his hands, tried to roll a blunt and put his head between his knees. Maybe if she took a prize, she would know I did it. Somehow stop her leaving. I swear to God, I tried. I swear to God, I tried.
C'était Arlo Parks sur France Inter. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert.
Bon, Patrick !
On a toujours besoin d'un petit pois chez soi pour reconnaître les vraies princesses. Flore Vesco, qui publie à l'École des loisirs un roman pour ados intitulé D'or et d'oreiller, histoire librement inspirée par la princesse au petit pois, est mon invité, ainsi qu'Edouard Signolet, auteur et metteur en scène de théâtre, qui a adapté le conte d'Andersen il y a quelques années. La princesse au petit pois a donné à notre reporter Juliette Proutot l'idée de parler sommeil avec les enfants. Bah oui, on dort mal sur un petit pois. Et toi, de quoi as-tu besoin pour dormir ?
Moi, en général, dans ma chambre, j'aime bien être en compagnie parce que je trouve que ça me... En fait, ça, je sais que je suis pas tout seul, du coup, ça me rassure, en fait. Mais par exemple, du coup, comme je dors avec Noé, eh ben, ça me rassure.
Moi, c'est déjà que ce soit confortable, qu'il y ait quelque chose auquel je puisse m'agripper pendant la nuit, par exemple, soit ma couette, un coussin, un doudou, enfin, quelque chose auquel je puisse m'agripper parce que des fois... Quand il fait un peu chaud, j'aime bien m'agripper à la couette quelqu'un que je connais à côté de moi.
J'ai plein de doudous dans ma chambre.
Un matelas, une couette et pas de lumière.
Ce qui compte pour moi quand je dors aussi, c'est ma veilleuse.
Moi, je dirais un bon oreiller et une couette bien chaude.
Moi, par exemple, je lis avant de me coucher.
Moi, il me faut une chanson, une histoire et mon attrape-rêve.
Parce que sans mon attrape-rêve, j'ai peur.
Moi, des fois, quand il est tard, maman, elle me fait pas d'histoire. Soit elle me fait juste une histoire dans le livre, ou soit une histoire dans moi.
C'est mon attrape-rêve parce que ma copine Eddie me l'a fabriqué. Et en fait, je lui fais pas de bisous sur toutes les plumes et sur aucune, je fais pas de rêve. Je lui fais un bisou sur une plume de mon attrape-rêve, je fais un cauchemar. Et je fais un bisou sur toutes les plumes et je fais un beau rêve. Ce qui compte vraiment pour moi aussi, c'est que mes parents dorment dans ma mezzanine parce que sinon, je dors pas de la nuit.
Un attrape-rêve, aussi appelé capteur de rêve, c'est un objet qui ressemble un peu à un mobile avec des plumes. S'agripper pour s'endormir, quelle belle expression entendue à l'instant. Cet enfant qui a besoin de s'agripper à son doudou. On continue à lire entre les lignes ou entre les matelas de cette histoire. La princesse au petit pois nous invite à la réflexion sur les problèmes de sommeil, Flore Vesco.
Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant de les entendre parler parce que donc ce temps du sommeil, c'est le temps où il se produit des choses qui ne peuvent pas se produire au grand jour. Et donc c'est source d'angoisse. Et on le sent avec s'agripper, il y a l'histoire de la veilleuse, la présence bienveillante des parents. Et c'est vrai que dans mon roman, je m'intéresse à ce passage à l'âge adulte où ça y est, on n'a plus besoin des parents et où on voudrait avoir le lit enfin pour soi seul et l'intimité. Et dans mon roman, il y a aussi beaucoup de mères très invasives qui se penchent encore sur leurs enfants pourtant grandes et bientôt prêtes à être mariées pendant qu'elles dorment. Ouais, c'est quelque chose de très fort, le moment où on est enfin seul dans son lit.
Mère très invasive, effectivement, cette histoire, la princesse au petit pois, Edouard Signolet, ça interroge la relation entre un prince et ses parents. C'est la reine qui décide de tester la prétendue princesse qui se présente au château. C'est la reine qui plante le petit pois.
Et ce qui est terrible en plus, que c'est donc la femme qui... entre guillemets, torture la princesse pour qu'elle prenne sa place. Et il y a une histoire qui est quand même terrible. C'est elle qui décide. Donc elle a dû, on suppose que peut-être elle a elle-même subi ça. Donc du coup, elle reproduit le même schéma.
Là aussi, on est dans la face cachée de l'iceberg.
Exactement. Et donc, on est vraiment dans une scène de torture.
Le couple des parents. Une scène de torture.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on la prive de sommeil. On la met sur 20 matelas. Et surtout, ce que je disais, moi, je pense pas que ce soit le petit pois qui lui ait fait quoi que ce soit, mais plutôt les 20 matelas. Mais c'est une vraie scène de torture. Alors certes, c'est un conte. Il n'y a pas de maltraitance à part les bleus, mais on est vraiment sur une scène de torture pour moi.
C'est vrai que le personnage dans votre pièce dit ceci, on dort très mal sur 20 matelas.
C'est un constat très
pragmatique. Mais j'ai jamais tenté, alors ça m'a interpellé.
Mais c'est ce que je me suis dit, moi je me suis projeté, je me dis comment on fait pour dormir sur un matelas.
Ça doit être confortable, non ?
Je sais pas, à mon avis c'est plutôt déséquilibré. Comme les matelas superposés, à mon avis, il manque un sommier, à mon avis ça va être très compliqué.
C'est une possibilité en effet, Flore Vesco.
Ouais, je voyais ça comme quelque chose de très confortable, justement. Le lit cabane, très très en hauteur, donc
loin. Il faut grimper, c'est rigolo parce qu'il faut d'abord l'escalader avant de dormir.
Bien pensé, il y a baldaquin qui maintient et tout ça, et du coup.
Parce que moi, c'était 20 matelas couchés dessus, et vraiment le truc complètement déséquilibre, ce qui fait que la personne qui est dessus est vraiment en déséquilibre, d'où sa situation. Enfin, moi, c'est ça que ça m'a...
La pyramide.
Voilà, exactement.
Du matelas à la sexualité, il n'y a qu'un pas, Flore Vesco. Votre roman aborde la sensualité, la découverte de son propre corps et de celui de l'autre. C'est impressionnant pour une autrice de s'attaquer à ce sujet quand on écrit pour les adolescents et les adolescentes.
Ouais, c'est très difficile. J'ai longtemps tourné autour du pot, cherché qu'est-ce que j'allais raconter déjà, jusqu'où j'allais raconter et comment j'allais le raconter. Alors, il se trouve, on en a parlé au tout début quand j'ai été présentée, que j'aime bien les mots.
Les mots de plus de trois syllabes.
Les mots de plus de trois syllabes, et les mots un peu anciens, les mots inusités, le lexique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et quand il s'agit de parler du corps ou de caresses, en fait, on n'a pas de lexique intéressant. On a un vocabulaire enfantin, ou bien on a un vocabulaire vulgaire, ou bien on a quelque chose de très scientifique, anatomique, mais aucune des trois options n'est vraiment satisfaisante, je trouve, en tout cas en littérature. Et du coup, j'ai décidé que je m'intéresserais à cette absence de lexique et que donc, pour raconter l'intimité, la découverte de soi et la découverte du corps de l'autre, je passerais par ça, par soit des sous-entendus, donc ça peut être des pronoms indéfinis, des blancs sur la page, le passage à un chapitre suivant, une ellipse, et donc à nous de remplir ce qui s'est passé dans cet intervalle, soit plutôt des images. Donc du coup, on est là, on n'est plus dans le non-dit, mais on est dans le sous-entendu. Mmh. Et c'est vrai que cet avantage-là, d'avoir pris ce biais-là, je me suis dit, c'est parfait pour de la jeunesse parce que ça fait une sorte de filtre de lecture. En fait, le lecteur, quel que soit son degré de maturité, et ce n'est pas une question d'âge, pourra ou non comprendre entre les lignes selon ce qu'il est prêt à entendre.
Ce n'est pas une question d'âge, mais comme je suis casse-pied, je vous demande quand même à partir de quel âge on recommande votre roman. 13 ans ?
Alors, c'est comme ça que mon éditeur le présente. Il est dans la collection pour les 13 ans et plus. Moi, je ne m'aventure pas sur ce terrain. Je pense que un lecteur plus jeune, il verra de la magie ou d'autres choses. Enfin, qu'il y a évidemment des lecteurs bien plus âgés qui ne verront pas le sous-entendu. Enfin, je ne crois pas que ce soit une question d'âge.
On peut rassurer les parents qui s'inquiéteraient. Tout cela est très doux.
C'est très doux. Et puis, je ne pense pas que de parler d'intimité et de sensualité est quelque chose qui devrait inquiéter les parents de toute façon.
Moi aussi, j'aime bien les mots, j'aime bien apprendre de nouveaux mots. Alors, je vous remercie parce que j'en ai appris un dans votre roman, Flore Vesco. Boulingrin.
Ah.
Un boulingrin, j'ai ouvert mon dictionnaire, c'est un parterre de gazon entouré de talus. L'un des enfants du prince et de la princesse s'installe au boulingrin pour discuter avec le clapotis de l'eau.
Barbatruc, tous les dimanches à 17h, avec Dorothée Barba.
Thank you.
Let You Speak, c'était Mead sur France Inter. Je suis avec Édouard Signolet, metteur en scène de théâtre, et avec Fleur Vesco, romancière. Nous parlons d'une légumineuse, d'une femme délicate et d'une pile de matelas, la princesse au petit pois. Que symbolise le petit pois, selon vous, Édouard Signolet?
Ah bah, ça a beaucoup de symbolique, mais ça représente la virilité du prince. C'est-à-dire qu'à un moment, si le petit pois arrive à faire des bleus à la princesse, on peut se douter que n'importe quel homme peut avoir une réaction avec cette jeune fille. Donc ça rassure quelque part le corps princier, enfin le corps royal, pour se dire, bon, si le petit pois arrive à faire des bleus à cette princesse, je pense que le prince pourra s'en sortir.
Lecture surprenante, vous cautionnez, Fleur Vesco?
Je la cautionne totalement. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment un sous-entendu sexuel et il y a cette idée que la femme sent. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un problème. Enfin, on s'en fiche un peu de ce qu'elle ressent habituellement.
Bah, c'est bien le problème, c'est un
objet,
en fait.
Ouais. Mais là, quand même, on en tient compte. On a envie qu'elle ressente quelque chose.
C'est étonnant, cette histoire qui paraît très simple, qui paraît parfois absurde, elle nous a permis aujourd'hui de parler de sommeil, de sexualité, du rapport avec les parents, de grandir. Il y a plein de choses dans
ça,
la princesse au petit pois.
Les contes, c'est formidable pour ça.
Ça laisse des portes ouvertes sur à peu près
la
tout.
La fenêtre.
En fait. Exactement.
Et alors justement, je le disais en introduction, se pencher sur un conte, c'est aussi s'offrir le plaisir de le commenter, de le réécrire et de le critiquer. Il ne s'agit pas d'annuler ni de censurer, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Fleur Vesco, avec cette idée que réécrire les contes, finalement, c'est les faire vivre?
Ah oui, complètement. De toute façon, le conte, il est pensé comme ça, mais même à la base. C'est une matière souple, elle est faite pour la réappropriation. Chacun la raconte comme il veut. Et ensuite, du coup, elle est tellement souple qu'elle se transpose très bien dans plein d'autres formes. En fait, que ce soit justement film, opéra, roman. Donc non, c'est pensé pour ça. Et ça permet aussi, c'est génial, de créer des fils, de s'inscrire dans une filiation en tant qu'écrivaine. Quand moi je réécris un conte, je peux lire plein d'autres réécritures d'autres personnes et j'aime beaucoup cette idée-là d'être une petite pierre dans un édifice.
Et puisqu'on parle beaucoup de la cancel culture, vous n'annulez pas du tout la princesse au petit pois en la réécrivant. Les contes sont des histoires de tradition orale qui n'ont cessé d'être réécrits et transformés. Et c'est ça qui fait leur charme, Édouard Signolet.
Non, puis en plus, comme dit Fleur, nous on s'inscrit dans cette lignée, donc on appartient quelque part à poursuivre cette tradition qui continue à vivre. Et en plus, on s'interroge sur ces contes, parce qu'au bout d'un moment, ils ont tellement été racontés, tellement re-racontés, que nous, on a un vrai challenge de se dire, mais comment on peut re-raconter ça? Et c'est ce que j'avais sur le dernier, moi, ou sur le petit chaperon rouge. Je me dis, mais comment je peux faire pour re-raconter cette histoire?
Que reste-t-il à dire?
Que reste-t-il à dire? Et du coup, je me suis dit, tiens, il faut peut-être parler de cette nomination, en fait. Pourquoi appeler quelqu'un petit chaperon rouge? C'est quand même dégueulasse d'appeler quelqu'un petit chaperon rouge.
C'est quand même appeler quelqu'un par la façon dont il est habillé.
Exactement.
Peut-être aussi cette histoire a-t-elle le mérite de convaincre les enfants de manger des petits pois. C'est très bon,
peut-être.
Les petits pois, mais surtout, ça peut sauver un royaume. Parce que c'est bien ce que crient le roi et la reine dans votre pièce, Édouard Signolet. Vive le petit pois, gloire au petit pois, le sauveur du royaume.
Il le chantait même.
Rien que ça.
Oui, il le chantait. Bah, c'est-à-dire que c'est le vrai héros, pour le coup. Donc, c'est vraiment le truc en plus qu'on expose. Enfin, on expose, les
à
gens peuvent
fin,
aller voir.
Expose. Ouais.
Voir, puis on a peur qu'on le vole, donc il y a quand même quelque chose qui ça tient, donc le royaume, la monarchie tient grâce à un petit pois et on le remercie et on le met en vitrine.
Petit mais costaud. C'est la
ça.
Princesse au petit pois a aussi inspiré Vincent Malone, je ne sais pas si vous connaissez cet hurluberlu, il est musicien et auteur, autoproclamé roi des papas, et il a écrit des contes mélangés, voici un extrait.
Ne sais-tu pas qui je suis?
Non.
Tu ne le sais pas?
Non. Vous êtes connue? Vous êtes une chanteuse de rap?
Je suis la princesse à petit pois dormant.
Une princesse?
À petit pois dormant.
Mais au petit poireau dormant? Non mais, vous fichez de moi?
Réagit Raymond soudainement méfiant, en laissant tomber son air aimable et son sourire commerçant.
Au petit âge, les princesses pouvaient s'arrêter pour dormir ou manger n'importe où sans rien avoir à payer. C'était la libre circulation des princesses. Il y avait tout de même une condition. Il fallait libérer la chambre avant midi.
Vous vous fichez de moi ou quoi? Vous êtes une princesse? Alors si vous êtes une princesse, alors moi je suis danseuse étoile. Regardez, je danse.
Oh, bien danse, danse, montre-moi. Pas convaincu.
La princesse au petit pois dormant de Vincent Malone. Ce sont des pitreries à retrouver sur les plateformes de streaming audio. Il y a aussi le vilain petit Pinocchio et la petite sirène des pompiers. On découvre, Fleur Vesco, l'existence du petit âge qui précède, j'imagine, le Moyen-Âge. Une période qui vous intéresse, hein, puisque c'est le décor de votre précédent roman, L'étrange malaventure de Mirella. Vous aviez déjà pensé au petit âge?
Pas du tout. Je découvre et je trouve ça formidable.
On s'amuse là tout de suite à changer la fin de La Princesse au petit pois. Qu'est-ce que ça pourrait donner, Édouard Seignolet?
Moi, justement, je l'avais laissée ouverte.
Ouais, ouais. Il y a du boulot.
Je l'avais vraiment laissée ouverte. J'avais vraiment dit, bon, après, ils se rencontrent, ils ont l'air de bien s'aimer, mais ça a laissé une porte ouverte. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de la conclure, moi, cette histoire. En fait, moi, si je pouvais la conclure, c'est qu'ils partent définitivement du royaume. En tout cas, cet endroit me semblait tellement anxiogène, avec ce roi et cette reine, que moi, le plus grand bien qui puisse leur arriver, en tout cas, au prince et à la princesse, c'est de se barrer, en fait.
Ils s'enfuient et ils décideront ensuite plus tard si ça les intéresse ou pas de tomber amoureux l'un de l'autre.
Oui, et surtout de ne pas reproduire le schéma dans lequel on leur demande de voir des vraies princesses avec des vrais princes et surtout de raconter des vraies histoires.
Et ils mangent plein de légumes.
Et voilà, ou pas.
Fleur Vesco, une autre idée ?
J'en ai pas d'autres, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ils vécurent heureux, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux semble une sorte de passage obligé à la fin de n'importe quel conte. Et comme Édouard, je n'ai pas... Enfin, j'ai essayé d'y échapper. Alors, sans rien révéler, il y a quand même un happy ending et il y a effectivement un couple qui se forme. Mais la jeune fille finit par lui dire que ça va être à elle de lui faire passer des tests désormais pour vérifier que c'est vraiment lui qu'elle veut.
Beaucoup de tests.
Ouais. Et il faut nombreux, compliqués. Qu'est-ce qu'elle va cacher, elle? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle va lui faire faire dans un lit? On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est bien de sortir de... C'est bon, ils sont ensemble et ça ne se discute pas.
Et voilà ce qu'on peut lire dans l'épilogue de votre roman. Maman, maman, dites-moi, est-ce qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Voyons, petite sotte, quand comprendrez-vous qu'il ne faut pas croire ce que disent les contes? Le bonheur, sachez-le, repose plutôt sur la qualité des enfants que sur leur quantité.
Et ça, on évite de la psychanalyse pour plus tard. Moi, les histoires de Walt Disney m'ont traumatisé avec le systématisme de toujours vivre heureux.
Et de faire beaucoup d'enfants,
exactement,
c'est surtout
ça. Beaucoup d'enfants.
Il y a un truc un peu oxymorique là-dedans. Est-ce qu'on est vraiment heureux avec beaucoup d'enfants?
Alors là, je ne réponds pas à cette question. Il est temps à présent d'écouter Denis Chessou qui nous propose chaque semaine ses coups de cœur de littérature jeunesse. Et je vous retrouve, Fleur Vesco et Édouard Seignolet, dans un instant.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Merci Dorothée Barba. Oui, c'est l'actualité du livre pour enfants qui commence par Une nuit à Insect Hotel de Claire Schwartz aux éditions Les Fourmis Rouges à partir de 5 ans. La famille Bouzman revient de vacances.
Le matin du départ, un avis de tempête tombe à la radio. Il fait un temps à ne pas mettre une antenne dehors.
La famille Bouzman ne s'inquiète pas. Le véhicule s'élance vers leur maison malgré les intempéries.
On n'y voit rien. Papa mange un peu de bouse pour se détendre.
Le temps se révèle plus coriace que prévu. Un véritable orage oblige la famille à stopper son trajet.
Heureusement, au loin, on distingue une lumière. C'est beau, ça clignote, c'est écrit « Bienvenue à Insect Hotel ».
Mais les Bouzman sont loin d'être les seuls à vouloir se trouver un refuge pour la nuit.
Arrivé sur place, c'est la cohue. Tout le monde veut une chambre. Les ascenseurs sont pleins à craquer.
Lorsqu'ils se voient remettre les clés d'une chambre, celle-ci est petite et c'est pas le seul désagrément.
Devant leur porte, le mille-pattes ajoute d'une voix grave « Surtout restez bien au chaud, hein. Le soir il se passe des trucs bizarres, on parle d'une chose aussi géante que flippante qui entrait les couloirs ».
Les Bouzman, trop fatigués pour s'inquiéter, tout le monde s'endort, sauf Suzy qui a de la peine à trouver le sommeil entre ronflement et manque de place.
Accompagnée de son doudou puceron et de sa boule de bouse en cas de petit creux, Suzy se lance à la recherche d'une chambre plus confortable.
La voilà dans les couloirs, guidée par son odorat qui l'amène jusqu'aux cuisines du chef. Il lui dit de regagner sa chambre plus vite.
Dépêche-toi de te mettre à l'abri, la chose va commencer à hanter les couloirs. Je ne l'ai jamais vue, mais ce que je sais, c'est qu'elle adore la bélasse de puceron.
Lorsque Suzy se décide enfin à regagner la chambre familiale, il est déjà trop tard. Ses pieds sont englués dans la mélasse de pucerons. Le grand fracas résonne à ses oreilles. Suzy est fichue.
Et la chose qui grandit dans une odeur chaude et grillée. La mystérieuse chose géante, flippante, quillante apparaît. C'est une luciole.
Et elle a l'air plutôt gentille.
Tu es perdu? Si tu veux, il reste un lit dans ma chambre. Comme j'éclaire la nuit, personne n'en veut. Et moi, j'ai peur de dormir seul. Alors pour passer le temps, je me promène dans les couloirs.
Il semble bien que Suzy se soit faite une nouvelle amie. Alors dans sa narration, Claire Schwartz se manie avec brio la montée de l'effroi. Bien qu'il soit avorté, grâce au fourmillement de personnages farfelus, il y a une héroïne plutôt téméraire. Il en résulte un album sur l'altérité et la peur de l'inconnu, une thématique qui est courante en littérature de jeunesse, mais qui détonne ici par sa tonalité à haute teneur en suspense et en humour. Ça captive, ça bouscule un peu les émotions. Une nuit à Insect Hotel, c'est aux éditions des Fourmis Rouges, bien sûr, et à partir de 5 ans.
Restons dans les insectes, Denis, avec votre deuxième choix.
Pourquoi la coccinelle porte bonheur de Bruno Oetz et Michel Larieux chez Delachaux et Nies les Jeunesses à partir de 6 ans. Au Xe siècle à Paris, un potier fut sauvagement assassiné. Très vite, on soupçonne son apprenti, qui fut condamné à avoir le cou tranché.
Le jeune garçon hurlait ses grands dieux qu'il n'était pour rien dans ce crime odieux.
Mais il fallait un coupable. On se réunit pour assister à une exécution capitale.
C'est alors qu'une petite coccinelle vint se poser sur le cou du jeune condamné.
Tuer un coupable, oui, mais fallait-il aussi sacrifier la vie de cette petite bête innocente ?
Sensible et juste, le roi qui présidait à cette exécution leva la main pour arrêter le geste du bourreau.
Le bourreau chassa l'insolente bestiole qui se posa sur l'index royal. Le roi Robert le Pieux ordonna la reprise de l'exécution, mais la coccinelle revint se poser sur le cou du condamné.
Et de nouveau, le doigt royal se retrouva coiffé du petit insecte.
La scène se renouvela à 7 reprises. Raillé, le monarque reporte la mise à mort à 8 jours. Et quelques jours plus tard, on arrêta dans une ville voisine un homme qui avoua être l'auteur du crime.
On a failli tuer un innocent. On se souvint alors de l'obstination de l'insecte qui sauva sa vie.
À coup sûr, c'était une intervention divine.
Qui d'autre qu'un dieu aurait pu s'opposer à un roi pour l'empêcher de commettre une telle erreur ?
Ainsi naquit la bête à bon dieu porte bonheur. L'histoire est suivie d'un documentaire racontant la vie des 6000 espèces de coccinelles, son âge, ses points, etc. Un doc-histoire illustré par un grand du livre de jeunesse, Bruno Oetz, immédiatement reconnaissable par le trait et la mise en scène de ses dessins, autant humanistes que malicieux. Pourquoi la coccinelle porte bonheur, Bruno Oetz, Michel Larieux, Delachaux, Nies les Jeunesses, c'est à partir de 6 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou. Les références des livres cités sont à retrouver sur notre site internet franceinter.fr, rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». On approche de la fin de cette émission. Vous savez peut-être que nous élaborons dans Barbatruc une recette secrète. Composition chimique très complexe, c'est le parfum de l'enfance. On y met énormément d'odeurs. Chaque invité doit livrer la sienne et c'est donc à vous de participer. Flore Vesco, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la cave. Il y en avait une chez mon grand-père où j'allais pour me faufiler et il y avait un bordel monstre, mais j'étais sûre d'y trouver un trésor bien rouillé avec le tétanos et tout, mais c'est pas grave.
Ça sent l'humidité.
Et ça sent l'humidité. Ça a un nom. C'est le pétrichor.
Oh non, mais ça, c'est très joli. Comment ça s'écrit pétrichor ?
P-E-T-R-I-C-H-O-R, si je ne dis pas de bêtises.
Et ça, c'est l'odeur de la cave.
En fait, c'est l'odeur de, après la pluie, la terre mouillée, mais c'est aussi, du coup, l'odeur de la cave.
Ah oui, aussi, quand il a plu, cette odeur après la pluie, c'est pétrichor aussi.
Spécifiquement pour la terre mouillée, en fait. Pas pour le gazon, etc. Mais l'odeur de la terre humide, c'est le pétrichor et c'est l'odeur qu'on sent dans la cave.
J'ai appris deux mots aujourd'hui. Et vous, Édouard Seignolet, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors là, ça a été une question hyper compliquée, puisque moi, j'adore les odeurs. Et après, je dirais qu'il y en a plusieurs. J'ai été élevé à la campagne. Mm-hmm. Donc, je dirais beaucoup l'odeur des animaux, des chevaux, des chiens.
Crottin de cheval ?
Oui. Tout okay. à fait, ah, complètement. Paille, aussi, il y avait la cheminée et surtout l'odeur de l'été. Mais c'est vrai que l'odeur des animaux m'a profondément marqué.
Du crottin de cheval.
Exactement.
Et une cave, voilà, qui vient rejoindre notre recette.
C'est, glamour, c'est ça, exactement, nous sommes paillettes.
Merci beaucoup à
tous
les
vraies princesses.
Exactement.
Mais vous faites du vélo. D'or et d'oreiller, le nouveau roman de Flore Vesco est vivement recommandé. C'est une histoire d'amour et de sorcellerie avec un château hanté, adaptation sensuelle et magique de la princesse au petit pois. C'est publié à l'École des loisirs. La couverture, soit dit en passant, est magnifique. Recommandé, on le rappelle, à partir de 13 ans, même si on n'aime pas donner un âge. À lire également chez Flammarion Jeunesse, un livre collectif dans lequel vous publiez une nouvelle. Elle est le vent furieux. 6 autrices racontent des histoires dans lesquelles la nature reprend ses droits et vous y proposez, Flore Vesco, un récit recyclée. Tout autant conseillé pour ceux et celles qui aiment lire du théâtre. La princesse au petit pois, adaptation du conte d'Andersen par Édouard Signolet. C'est aux éditions de l'Arche. Et puis vous reprenez du service, enfin, Édouard Signolet, puisque le spectacle vivant est de retour. Roméo, Juliette et un accordéon bientôt, je crois.
Le 9 et 10 juin à la Barcarolle, à Saint-Omer, avec La Clé des Champs, qui est un centre de décentralisation lyrique. Ensuite, on a un peu avant, on a le 1er juin, La Petite Leçon de Zoologie, qui est un de mes textes que j'ai mis en scène au CDN de Nice. Et ensuite, on aura Le Diable à Paris, à l'Atelier Lyrique de Tourcoing, le 6 juin, et le 22 juin, au Théâtre Impérial de Compiègne, qui est une opérette en 3 actes.
C'est une reprise sur les chapeaux de roue.
Tout à fait.
Vous l'avez entendu.
Exactement. Et tout le monde est impatient. Et il y a aussi Chez l'Arche, Je m'appelle pas, qui est le dernier.
Le petit chaperon rouge.
Le petit chaperon rouge. Voilà.
Je m'appelle pas comme je suis habillée, donc.
Non, c'est qu'au début, elle n'a pas de prénom, donc au début, on ne l'appelle pas. Donc sa mère l'oublie de lui donner un prénom, et un jour, elle fait un chaperon rouge, donc elle la nomme comme ça. Mais au début, elle ne s'appelle pas.
Je suis personne, un peu.
Exactement.
Merci mille fois à tous les deux. Bonne soirée, à bientôt sur France Inter.
Merci.
Merci, à bientôt.
Après le journal, vous avez rendez-vous avec L'Œil du Tigre. Philippe Collin se penche sur la passion du foot de Pasolini.